Raconte-moi, un balado sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. Le raifort est une plante à très grandes feuilles qui fait de petites fleurs blanches et jaunes et qui dégage une très forte odeur. La racine du raifort est parfois utilisée pour remplacer la moutarde et est très populaire en Europe centrale et de l'Est. Ça fait même un excellent remplacement pour le wasabi une fois que c'est réduit en poudre et qu'on y ajoute un peu de colorant, on n'y voit que du feu. Mais le raifort a aussi donné naissance à un empire de plusieurs milliards de dollars, celui des produits Heinz. Henry J. Heinz, fils d'immigrants allemands, fonde en 1869 la Heinz Noble & Company, avec son ami L. Clarence Noble. Les deux étaient âgés dans la vingtaine. Pour notre épisode d'aujourd'hui, on va parler simplement d'Henry Heinz, car c'est lui la clé de l'entreprise et le cerveau derrière les innovations. Pour faire ça simple, Heinz, c'est Steve Jobs et Noble, Steve Wozniak, chez Apple. Donc, nos deux compères fondent leur compagnie en 1869 et leur tout premier produit est du raifort emballé. C'est un projet assez ambitieux parce qu'à l'époque, tous les produits emballés contenaient des contaminants, comme du plomb qu'on retrouvait parfois dans la moutarde ou de la poussière de roche qui était vue dans le sucre et la farine. Par contre, c'est aussi à ce moment-là que l'industrialisation s'accélère et l'urbanisation aussi. De plus en plus de maisons sont construites, les terrains sont donc plus petits et il y a moins de place pour cultiver les aliments. La preuve, c'est qu'entre 1859 et 1899, l'industrie des aliments transformés progresse de 1500%. Pour contrer le manque de confiance pour les aliments transformés, Heinz choisit de vendre ses produits dans des pots de verre transparents, un statement pour prouver qu'il n'a rien à cacher. Alors que leur compagnie prend de l'expansion, la famille de produits s'agrandit et de la sauce, de céleri, de la moutarde et des cornichons s'ajoutent au line-up de l'entreprise. Ces produits ne sont pas choisis au hasard. Ils sont tous conçus pour ne pas gaspiller les ingrédients restants lors de la production du raifort, qui reste, malgré tout, le produit phare de l'entreprise. C'est leur meilleur vendeur, car il y avait une forte concentration d'Européens à Sharpsburg, en banlieue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. C'est dans cette région que l'entreprise prend vie et fait affaire à ses débuts. C'est d'ailleurs encore là que le siège social de Heinz se trouve aujourd'hui. On revient donc à la production et à la vision de Heinz. Alors qu'il réalise qu'il utilise énormément de vinaigre pour ses produits, Henry Heinz choisit de le produire lui-même, de l'utiliser dans ses produits et aussi de le vendre dans une bouteille transparente. Tout va très bien jusqu'en 1873, alors qu'une dépression économique arrive et que l'accès au crédit se fait plus rare. En 1875, quand l'entreprise doit 3 000 $ à ses employés et ses créanciers, elle déclare faillite en décembre. Évidemment que l'histoire ne se finit pas là. On n'a même pas encore parlé de ketchup. Un an après sa faillite, Henry se repart en affaires avec son frère et un cousin. Et leur focus n'est plus le raifort, mais la tomate. Un de leurs premiers produits est le fameux ketchup Heinz. Le ketchup est un condiment britannique qui est devenu très populaire aux États-Unis au 19e siècle. Mais la surcuisson et l'utilisation abusive d'épices lors de sa préparation détruisaient souvent le goût et son apparence. Heinz décide alors d'utiliser sa réputation et d'offrir un produit de haute gamme pour mettre sur le marché un ketchup dans une bouteille transparente. Et à partir de 1906, c'est un produit sans conservation qui est sur le marché. L'année suivante, le ketchup est exporté à l'international et 13 millions de bouteilles sont vendues. Aujourd'hui, plus de 650 millions de bouteilles de ketchup Heinz sont vendues annuellement sur la planète. Pour subvenir à la demande croissante, en 1909, Heinz inaugure une usine de ketchup et d'autres condiments à Leamington, en Ontario, au Canada. Cette usine sera vendue à la maison mère de French en 2014. Mais avant de continuer de jaser de ketchup, je veux revenir en 1896. C'est l'année de l'introduction du fameux slogan « 57 varieties ». Cette année-là, Heinz vendait plus de 60 produits différents. Mais le 57 a été choisi parce que le 5 était son chiffre chanceux et le 7, celui de sa femme, tout simplement.
Viens prendre un hot dog du chef avec des frites.
Ben oui.
Elle marche vers sa cabine.
Mais comment?
Elle s'arrête. Le trouve pas.
C'est incroyable.
Elle cherche le Heinz, en trouve pas nulle part.
Non, t'as pas.
Là, elle regarde par ici. La voix, elle s'en vient.
Pardon, mais il n'y a pas d'autre Heinz.
Oh, pas possible. Tiens.
Merci.
En passant, moi, c'est Stéphane.
Avec Heinz, tout a plus de goût.
Ça, c'était Patrick Henault et un classique de la publicité des années 90 au Québec. Mais on revient aux moutons. Le 57 joue aussi un rôle important sur les bouteilles de ketchup en verre, encore aujourd'hui. C'est l'endroit optimal sur lequel taper pour faire couler le ketchup. C'est la compagnie elle-même qui le mentionne sur son site web et ça a même été testé par le très sérieux et respecté New York Times. Avec des enquêtes comme celle-là, c'est pas vrai que les journaux ne survivront pas. Au 20e siècle, Heinz continue de se diversifier, entre autres en produisant de la purée pour bébé depuis 1930, et en faisant des acquisitions comme le thon Starkist qu'ils revendront en 2002 à Del Monte. C'est en 1959 qu'un président qui ne fait pas partie de la famille Heinz est nommé pour la première fois. Quand même, 90 ans sous un régime exclusivement familial, c'est pas rien. Bien que Heinz est une compagnie qui ne fait pas trop les manchettes, elle n'est pas à l'abri de la controverse. En 2008, elle lance une campagne publicitaire au Royaume-Uni dans laquelle on voit deux hommes s'embrasser et reçoit quelques centaines de plaintes de clients. La pub est alors retirée quelques jours plus tard, mais un groupe de défense des droits LGBT appelle au boycott de Heinz parce qu'elle les qualifie d'homophobes. Une autre controverse survient en 2014 alors que la deuxième plus grande usine de ketchup Heinz au monde ferme ses portes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, elle a été rachetée par l'entreprise canadienne qui produit la ligne French, qui mise alors sur le patriotisme et vend son ketchup comme en étant un « made in Canada ». Et ça marche! Parce que la part de marché canadienne de Heinz passe de 84% à 76% en seulement un an. En octobre 2013, McDonald's annonce la fin de son association avec Heinz parce qu'un ancien dirigeant de Burger King devient PDG de Heinz.
Mais voyons donc!
En 2015, Kraft fusionne avec Heinz au prix de 23 milliards de dollars pour devenir Kraft Heinz, le cinquième groupe alimentaire le plus gros du monde. On va y aller avec quelques petites informations en rafale. Heinz a voulu faire des spin-offs plus ou moins réussis avec son ketchup. De 2000 à 2006, il lance la ligne Easy Squirt. Je ferai aucun commentaire sur le nom. Mais il faut savoir que ce produit-là était ciblé vers les enfants parce que c'était exactement la même recette de ketchup, sauf qu'il était vert, mauve, rose, bleu ou turquoise et même orange. Je vais mettre une photo sur le compte Instagram de Raconte-moi Balado si vous voulez voir de quoi ça avait l'air. En 2018, il lance le Mayo Chop, suite à un vote sur Twitter. Bien que c'est rien de révolutionnaire, là, une simple sauce ketchup mayo, Ça fait jaser parce que le terme « maillot de chop » en langage cri, ça veut dire « face de merde ». Donc, après quelques petites excuses, dans la même série, on a droit au « maillot must » mayonnaise moutarde, « maillot Q » mayonnaise barbecue et « crunch » le plus douteux, « ranch ketchup ». Heinz débourse aussi 57 millions de dollars en 2001 pour donner son nom au stade des Steelers de Pittsburgh jusqu'en 2021. Et parce qu'on dirait que depuis quelques années, Donald Trump nous hante comme un mauvais film d'horreur, son grand-père était le cousin germain de Henry J. Heinz, fondateur de la compagnie. Je pense qu'on peut dire que l'influence de Heinz dans la pop culture est bien ancrée. Tellement qu'en 2012, un réseau de contrefaçons de ketchup Heinz a été démantelé. Rendu là, l'influence de l'entreprise est pas mal confirmée. Merci d'avoir été là. J'espère que l'épisode vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser vos commentaires sur iTunes, Google Play et Spotify afin d'en apprendre plus sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. Suivez aussi le compte Instagram Raconte-moi Balado pour connaître en primeur le sujet de la semaine. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, c'est André Bustros qui vous dit à très bientôt.